critique.
Raphaël Bourgois. Les idées au banc d'essai, Avis Critique explore toutes les disciplines et les indisciplines. Ce soir, comme chaque semaine, deux essais sous les feux de la critique, deux livres qui, chacun à leur façon, se penchent sur la crise démocratique. Dans Peuplocratie, publié chez Gallimard, Ilvo Diamanti et Marc Lazare décortiquent la dynamique conquérante des populismes en Europe. Peuplocratie, c'est le nom que les deux auteurs donnent à la nouvelle ère dans laquelle on serait entré. Déclin des cultures traditionnelles, recul des grands partis, personnalisation, présidentialisation et médiatisation du pouvoir, dont la France et l'Italie constituent de parfaits exemples. Le second essai dont nous allons parler est le succès de librairie du moment, Crépuscule de Juan Branco, publié au Diable Vauvert, Masson Édition, après avoir été proposé en accès libre sur Internet. Le livre se présente comme une enquête, une démonstration de la mainmise d'une oligarchie sur la démocratie et de l'illégitimité de l'élection du président Emmanuel Macron. Et en studio pour débattre des représentants de l'oligarchie, Eugénie Bastier du Figaro, bonsoir.
Bonsoir.
Et Joseph Confavreux de Mediapart, bonsoir Joseph.
Bonsoir Raphaël.
Alors je vous propose de commencer par le livre de Marc Lazare et Ilvo Diamanti, Peuplocratie, la métamorphose de nos démocraties, sorti chez Gallimard. Le livre a d'abord été publié en Italie en 2018 et y a fait débat, à en croire l'éditeur La Terza. Il a été mis à jour et traduit pour le lectorat français. Ilvo Diamanti est professeur de sciences politiques à l'université d'Urbino. Marc Lazare est lui professeur d'histoire et de sociologie politique. Il dirige le Centre d'Histoire de Sciences Po à Paris et il est connu pour ses travaux sur l'Italie, mais aussi sur le communisme en France. Le constat de départ est simple et partagé par un nombre important d'essais dont il a déjà été question ici. Le Brexit, la victoire du mouvement 5 étoiles en Italie, qui s'est finalement associé à la Lega, la présence au second tour des présidentielles en France de Marine Le Pen, le succès de Jean-Luc Mélenchon, Orban en Hongrie, Kaczynski en Pologne, Kurz en Autriche, les populistes ont le vent en poupe en Europe. Mais comment parler d'un populisme quand les exemples sont aussi différents? Peut-on trouver dans l'histoire et l'actualité de ces mouvements, au-delà des nuances nationales, des similitudes qui permettraient d'en tracer les contours? Les auteurs l'affirment et vont trouver des points communs à la fois sur le fond, la critique des élites, la valorisation d'un peuple homogène et fondamentalement bon, la critique de la représentation en démocratie et aussi sur la forme, culte du chef, fonction tribunicienne, simplisme des solutions, référence à la nation. Il y a un travail important mené par les chercheurs qui font de la France et de l'Italie deux idéotypes de ce moment populiste que nous traversons et qui interrogent surtout la diffusion d'un style populiste au-delà des partis ou des mouvements étudiés. Alors, pourquoi parler de peuplocratie? C'est évidemment la première question qu'on se pose. Et surtout, quelle différence avec la démocratie, dont l'étymologie pourrait nous faire penser qu'il s'agit du pouvoir du peuple? C'est tout l'enjeu du livre Eugénie Bastier.
Oui, alors, on peut trouver ce néologisme pas très heureux en français, hein, peuplocratie. Je crois qu'en italien, c'est popolocratia, qui est peut-être un peu plus évocateur. En français, c'est pas, ça ne rend pas extrêmement bien. Mais je crois que l'idée est justement de se démarquer la démocratie traditionnelle en disant que nous advenons dans un nouveau monde où finalement les populistes ne sont pas juste une composante de l'espace politique. Il n'y a pas juste une montée des populismes, mais finalement le style populiste gagne l'ensemble de nos démocraties. Et finalement, l'ensemble de nos responsables politiques, de nos régimes politiques se convertissent à ce nouveau style politique qui consiste à, d'une part, évidemment, prôner la souveraineté du peuple, mais aussi de mettre en œuvre une forme de démocratie immédiate. Hein. Il ne parle pas de démocratie directe, mais de démocratie immédiate, c'est-à-dire qu'il se passe de médiation, les anciennes médiations qui étaient les partis politiques, les syndicats, par exemple, les corps intermédiaires. Eh bien, ce style populiste gagne non seulement les partis populistes, mais l'ensemble du spectre électoral. Et d'ailleurs, il cite dans ce livre Emmanuel Macron et Matteo Renzi, qui eux-mêmes, venant du centre gauche ou du centre droit, ont adopté eux-mêmes les codes populistes. Et c'est ça véritablement la peuplocratie, c'est-à-dire c'est un nouveau régime où tous les acteurs politiques se convertissent à l'idée de l'appel au peuple.
Joseph Confavreux, sur ce néologisme de peuplocratie.
Oui, je pense qu'effectivement il est intéressant au sens où il montre que le populisme ne se caractérise pas uniquement par l'émergence, voire la prise de pouvoir, comme c'est le cas en Italie, de mouvement populiste, mais par la diffusion d'un style populiste. C'est ça qui fait l'armature du livre. Et les auteurs estiment que cette peuplocratie, c'est au fond une accélération de ce que le philosophe Bernard Manin appelait la démocratie du public, déjà caractérisée par l'affaiblissement des partis traditionnels, la personnalisation, la présidentialisation, la médiatisation, et qu'on sous les effets à la fois de la globalisation, de la puissance du pouvoir technocratique et des nouveaux moyens de communication, notamment Internet, on serait dans une accélération de cette démocratie du public qui s'opposerait à la démocratie du Parlement, globalement. Après, c'est là où le livre est à la fois très sérieux, il se veut très descriptif, mais en fait, souvent, il perd quelque chose d'assez normatif. Et au fond, il y a quand même l'idée quelque part que la démocratie représentative, c'est bien, que la peuplocratie du peuple, du populisme, c'est dangereux. Donc c'est là où je trouve que le livre est un peu ambigu, parce qu'il se présente vraiment comme un livre de sciences politiques, un livre d'histoire qui refait l'histoire du populisme, et en fait, on sent qu'il s'inscrit quand même dans une lignée, pour pas dire une saturation éditoriale d'ouvrages qui déplore la crise de la démocratie représentative sous l'effet du populisme, mais sans vraiment s'interroger sur les racines de la crise des démocraties représentatives et les responsabilités des démocrates libéraux dans cette situation.
Jeannie Bassier, vous partagez ce sentiment ?
Clairement, le livre... on sent que les auteurs du livre sont plutôt partisans de la démocratie libérale et représentative et qu'ils s'inquiètent justement du défi que pose cette peuplocratie aux institutions de la démocratie libérale et qu'ils invitent justement à trouver des solutions pour conjurer ce péril. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est que dans ce livre, qui est en fait une bonne synthèse, hein, sur on n'apprend pas vraiment, il n'y a pas vraiment une thèse inédite, mais c'est une synthèse des travaux en cours sur le populisme. Ils font une distinction justement entre l'origine du populisme, le populisme originel tel qu'il naît au XIXe siècle, et ce néo-populisme pose un défi aux démocraties libérales, parce que c'est précisément au nom de la démocratie elle-même que les populistes s'érigent en porte-parole du peuple, et finalement ils disent ce sont nous les vrais démocrates, et le peuple, les élites, elles, ont trahi la démocratie. Et c'est ça l'originalité des néo-populismes, c'est-à-dire que contrairement au populisme passé qui rejetait la démocratie finalement parlementaire, on peut penser par exemple au fascisme qui clairement rejeter le modèle démocratique en soi, ce néopopulisme ne rejette pas la démocratie mais prétend au contraire la pousser jusqu'au bout et l'achever.
L'achever, évidemment, par un contact direct au peuple. On a bien établi, je pense, la thèse de ce livre. Il s'agit maintenant de voir comment elle est démontrée au fur et à mesure de l'essai. Joseph Confavreux, d'abord, par un effort de définition, et un effort de définition presque impossible, le reconnaissent Ilvo Diamanti et Marc Lazare dans ce livre donc publié chez Gallimard, Peuplocratie. Effort impossible, car il est impossible de trouver une forme chimiquement pure, on pourrait dire, du populisme.
Oui, il cite une professeure de théorie politique qui, en 1981, Margaret Canova, disait déjà que le populisme était l'un des mots les plus confus du vocabulaire de la science politique.
Et pourtant, on ne cesse de l'utiliser.
On ne cesse de l'utiliser et je ne suis pas sûr qu'en dépit des capacités d'historien qu'on ne va pas enlever à Marc Lazare, ce passage par l'histoire permet vraiment de saisir. Évidemment, ça permet de comparer, ça permet des choses. Moi, mais au final, on a l'impression que ils vont quand même dire que les populismes, employer ce terme au pluriel et ajouter la confusion à la confusion. Moi, c'est ça qui me gêne, c'est-à-dire que si on s'intéresse à la forme des partis, et ben dans ce cas-là, la France insoumise est plus proche de la République en marche. C'est exactement à peu près. C'est le même fonctionnement à l'état gazeux. Donc si on s'intéresse à la forme, alors qu'évidemment on va pas dire que La République En Marche est un parti populiste, mais en fait ça fonctionne de la même manière. Et si on s'intéresse sur les programmes, il faut arrêter de mettre sur le même plan le Rassemblement National et la France Insoumise. Ça n'a juste rien à voir.
Et même au-delà de ça, au niveau européen, BP Grillo et Marine Le Pen, Mélenchon avec Orban, Tsipras avec Geert Wilders.
Voilà.
En Italie, ils sont alliés.
Non mais alors, c'est à mon avis, en fait le livre je le trouve plus intéressant sur la géographie, parce que c'est vrai que comme ils le disent, l'Italie a toujours été un laboratoire, ils parlent d'un sismographe des événements politiques, et donc je pense qu'on a intérêt à regarder le cas italien, et que le deuxième élément vraiment intéressant dans le livre, c'est cette comparaison France-Italie, qui sont quand même sur des systèmes institutionnels très différents, qui n'ont pas du tout les mêmes histoires politiques, et qui se trouvent dans des moments populistes, sinon similaire, du moins comparable. Donc là, sur la géographie, et je pense qu'effectivement, la façon dont le mouvement 5 étoiles, qui a en soi quelque chose de très particulier, s'est allié à la Ligue du Nord et a été phagocyté par lui, doit interroger tous les gens qui se revendiquent d'un populisme de gauche. Parce que là, on voit bien la limite de l'exercice, même si je jetterai pas le populisme de gauche avec l'eau du bain, comme ont tendance à le faire Diamanti et Lazare. Mais, ceci dit, il y a quand même un moment, c'est-à-dire que tous les gens, comme Jeremy Corbyn, comme Ada Colau, la maire de Barcelone, comme même Tsipras, qui, au fond, sont des populistes de gauche, d'une certaine manière, mais ne correspondent pas à la caricature médiatique qu'on en a. C'est-à-dire qu'ils jouent pas sur le côté providentiel, ils jouent pas sur le côté homme fort, ils jouent pas sur le côté nationaliste. Ada Colau, c'est elle travaille à l'échelle municipale, elle crée un réseau de villes ouvertes aux migrants, mais au fond, elle est alliée à Podemos, enfin, elle est complètement dans ce qu'on appellerait, si on n'était pas dans une caricature du populiste, une populiste de gauche. Donc j'ai l'impression qu'ils évacuent tout ce qui les gêne dans leur mode d'analyse.
Oui, mais pourquoi vous la qualifiez-vous de populiste de gauche? Pourquoi elle serait populiste?
Ben non, justement, elle est pas.
Ben non, mais donc peut-être qu'elle est pas populiste, justement.
Tout simplement.
Alors,
qu'est-ce qui la différencie alors du leader de Podemos, Pablo Iglesias?
Parce que chez Podemos, il y a quand même cet appel au peuple, et puis il y a surtout ce leader charismatique, justement, qui est un ingrédient du populisme. C'est-à-dire que le populisme, c'est quoi? C'est finalement cet appel au peuple, c'est-à-dire l'idée de se revendiquer du peuple, comme le dit Jean-Luc Mélenchon.
Un antagonisme irréductible.
Voilà,
entre le
Jean-Luc
et les
Mélenchon
élites.
Dit à chaque fois qu'il y a un problème, la solution, c'est le peuple. Voilà, ça, c'est une définition du populisme. C'est-à-dire un appel au peuple comme solution immédiate à tous les problèmes. L'idée évidemment d'avoir un leader charismatique qui va incarner un mouvement plutôt justement que d'alimenter des réseaux, etc.
Prééminence de l'incarnation sur la représentation.
Prééminence de l'incarnation et évidemment aussi des solutions simples à des problèmes complexes. C'est ça qui caractérise ce style populiste qui est transpartisan et qui à la fois évidemment il y a un populisme de gauche, un populisme de droite, mais aussi un populisme du centre. Ils le disent très bien en parlant de Renzi et de Macron qui se sont eux-mêmes, alors qu'ils étaient au cœur du système, présentés comme des anti-systèmes. Qui allait mettre dehors les vieux partis traditionnels, etc. Donc ce style populiste, il contamine l'ensemble du spectre politique.
Ouais, mais dire contaminé déjà, c'est bien montrer que pour eux c'est une maladie. Et si je prends l'exemple de l'avenir en commun, je suis désolé, c'est pas des solutions simples. C'est au contraire très complexe, c'est élaboré. Après on peut les discuter, mais c'est élaboré. Et moi ce qui me gêne,
quand
c'est
quand Mélenchon dit tous dehors, tous pourris, c'est un peu une solution simple.
Sont des slogans, c'est pas un programme.
C'est des slogans, c'est pas un programme. Il y a un programme beaucoup plus complexe que celui par exemple de La République en Marche. Mais je prends un autre exemple. C'est-à-dire que l'appel au peuple, en soi, c'est pas le même selon que c'est un appel au peuple pour virer tous les migrants au nom d'un peuple homogène, ou si c'est pour essayer de se débarrasser d'une oligarchie financière qui, de fait, mène des politiques sociales iniques. Donc, ils confondent toujours la forme et le contenu. Donc, à partir de là, on peut forcément condamner et dire, bah non, alors lui, il est pas populiste, mais, alors Jeremy Corbyn, juste parce qu'il a, il parle pas comme Mélenchon, mais le programme de Jeremy Corbyn et le programme de Mélenchon, c'est à peu près la même chose, et ils se revendiquent tous les deux comme leaders d'un camp progressiste. Donc, qu'est-ce qui les différencie? À part le fait que, effectivement, il n'y a pas de saillie, d'hommes providentiels, qui éructent.
Il y a quand même une volonté de, dans les deux cas, d'opposer un eux et un nous. Que ce eux et ce nous soient d'ailleurs définis par un ethnos ou par une classe sociale, mais il y a quand même cette binarité qui est quand même présente, c'est-à-dire de dire, voilà, d'un côté il y a les gentils et de l'autre les méchants, on est dans ce combat, une lutte à mort entre soit deux classes, soit entre des autochtones et des migrants, mais il y a quand même cette opposition qui est frontale, binaire, et qui ne laisse pas la place justement à une vision plus complexe du monde.
Avec un paradoxe apparent sur lequel reviennent Ilvo Diamanti et Marc Lazar donc dans ce livre « Peuplocratie », c'est que on assiste à une forme de rejet de la politique, en tout cas de la politique telle qu'elle se joue aujourd'hui, et parallèlement à une aspiration à plus de démocratie. Donc un paradoxe qui est souvent relevé, Joseph Confavreux. Est-ce que vous avez le sentiment que les auteurs répondent finalement, en tout cas arrivent à désamorcer ce paradoxe apparent, je le répète, entre un rejet du politique et une aspiration à plus de démocratie?
Non, il me semble qu'ils n'y arrivent pas, et qu'ils n'y arrivent pas parce qu'au fond, ils sont pas cohérents dans leur démarche, au sens où à la fin, ils nous disent, ah bah voilà, si on relève pas les défis démocratiques, ça va être le triomphe des populistes. Mais jamais ils vont au cœur de ce qui fait le déficit de la démocratie, le pouvoir oligarchique, le déficit de représentants qui ne sont plus représentatifs, et j'en veux pour preuve un élément qui, moi, m'inquiète quand je vois des démocrates sincères. Hein, je suis pas en train de remettre en cause leurs questions. Comme aux États-Unis, c'est-à-dire qu'on a bien vu que quand Trump est arrivé, eh ben, il y a des démocrates qui misaient tout sur le FBI et la CIA pour espérer que, en fait, au fond, l'État profond allait nous débarrasser de Trump. Et là, eux, Diamanti et Lazar, ils écrivent et ils se réjouissent que l'Alliance 5 étoiles Ligue du Nord a peu de chances de concrétiser ses lois parce que, je les cite, les projets de la Ligue et du mouvement 5 étoiles se heurteront à la grande expertise des hauts fonctionnaires gouvernement italien, comme à la légendaire capacité d'inertie de l'administration qui arguera du maquis inextricable de ses réglementations pour provoquer un enlisement des lois adoptées au Parlement. Et ils se réjouissent de ça. C'est-à-dire qu'on attend de l'administration, des experts, des techniciens, qu'ils n'appliquent pas les lois votées au Parlement par des gens élus par le peuple souverain. Moi, je préférerais bien, comme eux, qu'il n'y ait pas une alliance Mouvement 5 étoiles, Ligue du Nord au pouvoir en Italie. Mais on peut pas, une fois que des gens comme Trump ou le Mouvement 5 étoiles et la Ligue du Nord arrivent au pouvoir, dire « bon, ben, on va compter sur l'administration pour surtout pas appliquer ces programmes-là ».
Non, je suis d'accord. C'est un peu le même réflexe qu'ont eu beaucoup de gens ce camp-là face à l'élection de Trump, comme à celle de l'alliance Salvini 5 étoiles. C'est de dire, un, de toute façon, ils ne mèneront pas leur mandat au bout parce qu'ils seront renversés. Et deux, de toute façon, ils n'appliqueront pas leur programme parce que leur programme est inapplicable. Or, ce que l'on voit aussi bien chez Trump que chez Salvini et 5 étoiles, c'est qu'ils appliquent leur programme point par point. Et d'ailleurs, ça leur, ils sont très populaires. Salvini a une popularité qui n'a jamais été aussi importante en Italie. Trump, aujourd'hui, cette semaine, vient de passer la barre des 45% de popularité, ce qui est assez inédit. Et on voit que ces leaders restent populistes. Et là, il y a une espèce de phénomène de sidération de la part de cette science politique qui dit, finalement, il y a quelque chose d'irrationnel dans cette popularité. Celle-ci va finir par s'effondrer sous le poids du réel, alors qu'on voit que ce n'est pas le cas. Et c'est là où on voit un peu la faiblesse du raisonnement, parce qu'ils ne vont pas, en effet, essayer de comprendre véritablement le succès de ces populistes, même si, ils montrent quand même la pluralité des causes du succès du populisme. Ils ne s'attachent pas à en mettre une seule en avant.
Et oui, il faut évidemment parler de ces causes et du contexte qui est évoqué sans jamais être véritablement analysé par Ilvo Diamanti et Marc Lazare. Il faut dire que c'est pas un livre très très épais, sinon le livre serait énorme. C'est la question du chômage, du sentiment de l'impuissance du politique, l'euroscepticisme, l'angoisse de la mondialisation, je les cite en vrac, hein, inégalité croissante, rejet de l'immigration, crainte de l'islam. Tout ça, c'est reconnu par Ilvo Diamanti et Marc Lazare, sans véritablement faire un lien finalement, parce que eux, ce qu'ils vont chercher, c'est plutôt, bien qu'ils s'en défendent, justement la forme politique de science politique, une approche de par la science politique de l'émergence du populisme.
Oui, c'est que
Joseph Confavreux.
Moi, je pense que c'est important hein, quand ils rappellent que on peut pas expliquer le populisme uniquement par des motifs économiques et sociaux, ne serait-ce que parce que en France et en Italie, c'est pas la même situation, et parce que en fait, on a aussi des styles populistes et des mouvements populistes dans des pays d'Europe du Nord, par exemple, qui sont en bien meilleur état, ou en Autriche, qui vont beaucoup mieux économiquement. Donc, moi, je pense que là, ils ont raison de dire qu'en fait, c'est d'abord un problème politique et démocratique qui fait que le populisme, ce mot dont vraiment quasiment on se demande s'il ne faudrait pas, pour plus de clarification, l'abandonner, mais bon, pourquoi, en tout cas, le style populiste et les mouvements populistes se renforcent. Mais leur approche de science politique. Et au-delà de ça, au fond, un truc vraiment une idée de la raison versus la passion qui me semble un peu trop caricaturale. C'est-à-dire qu'ils disent que pour exister, le populisme a besoin d'exciter les passions, ce qui se traduit dans son langage, alors que la démocratie libérale et représentative cherche à les assécher afin de faire triompher la raison.
C'est un thème important en ce moment. Il y a le livre de Gloria Origi aux Presses universitaires de France sur les passions sociales. Il y avait eu un livre de Loïc Blondiot sur le rôle des passions en politique. Enfin, voilà,
il y a le livre sur les passions tristes de François Dubet, mais il me semble qu'il est aujourd'hui impossible de promouvoir seulement le cercle de la raison, surtout avec les dégâts qu'il a fait, et que la question n'est pas de faire disparaître la raison, mais bien de voir ce que les passions populaires et populistes, d'une certaine manière, ont de raisonnable, même si elles ne s'inscrivent pas dans le cadre raisonné de la science politique dont rêvent Diamanti et Marc Lazare.
Oui,
et
d'ailleurs, page 43 dans le livre, ils disent « Leur conception unanimiste du peuple les amène à minorer, voire à négliger ou même à occulter le pluralisme. Il n'accorde pas d'importance et de place à l'institutionnalisation du conflit qui est la marque même de la démocratie. » Eh bien moi, je suis désolée, je pense que c'est l'inverse. C'est-à-dire que il y avait le consensus justement du cercle de la raison qui refusait que la démocratie soit le conflit justement entre des visions du monde, et les populismes sont revenus remettre le conflit au cœur de la démocratie et dire justement il n'y a pas juste du pragmatisme libéral, mais il y a des visions du monde qui s'affrontent. C'est toute la théorie, par exemple, de Chantal Mouffe, qui justement dit qu'il faut remettre le conflit à l'intérieur de la démocratie, et l'agonistique, en disant qu'il faut, la démocratie, c'est l'affrontement entre des visions du monde opposées. Et c'est ça que sont venus rappeler les populistes. Donc, au contraire, ils ont remis du conflit là où il y avait une institutionnalisation du consensus, à travers, justement, le cercle de la raison libérale. Et donc, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que les populistes aussi, donc on peut dire évidemment qu'ils sont une menace pour la démocratie, mais ils sont aussi un réveil qui peut être salutaire, c'est-à-dire ils apportent en effet le retour du politique face à une politique qui était complètement soumise à l'économie.
Alors justement, c'est justement la thèse inverse que défendent Ilvo Diamanti et Marc Lazare, c'est-à-dire que le moment populiste, c'est le moment de la disparition du politique, avec ce style populiste dont on a évoqué rapidement, mais qui conclut finalement, qui vient apporter la touche finale à cette définition de peuplocratie, ce style populiste qui touche Emmanuel Macron, Matteo Renzi en Italie, et qui donc montre comment les hommes politiques se sont incrustés, comment la critique du système a été internalisée par le système lui-même, et que tous les hommes politiques doivent s'inventer un discours anti-système. On se souvient que François Fillon
C'est l'exemple le plus symptomatique. C'est-à-dire qu'on a là un vieux bourgeois politicien dans tout ce qu'il y a de classique, qui au moment où il est pris en faute pour son amour des costumes, de l'argent et des emplois fictifs, fait un appel au peuple et à la rue, et dans le plus pur style d'un Mélenchon qu'aurait habité un château. Ça, moi, je trouve que c'est vraiment intéressant quand il montre comment il y a ce qu'ils appellent une émulation en populisme, en disant que c'est non seulement les mouvements qu'on désigne comme populistes, et encore une fois, moi, je trouve qu'ils mettent trop sur le même plan des mouvements qui n'ont pas grand-chose à voir les uns avec les autres sur les deux bords de l'échiquier politique, mais quand ils disent que c'est aussi devenu une ressource, non seulement pour la conquête du pouvoir, mais même parfois pour le maintien au pouvoir, avec une énorme contradiction, puisqu'ils montrent bien que Emmanuel Macron ou Matteo Renzi sont effectivement des gens qui avaient tout misé sur leur personnalité et non pas sur un parti, et qui ensuite s'affichent comme moi, par exemple, et on le voit là à quelques encablures des échéances européennes, je suis en lutte contre les partis populistes, tout en épousant leur style. Et là, je pense que c'est là où le livre est quand même intéressant, c'est-à-dire qu'il touche un point, c'est-à-dire que est-ce qu'on peut combattre les populistes en empruntant leur code ?
Oui, il y a une cause aussi qui est mise en avant, mais peut-être pas assez, c'est les causes technologiques du populisme, c'est-à-dire comment Internet et le web ont permis cette radicalisation de la démocratie.
C'est dit, mais c'est pas analysé.
Voilà, c'est pas analysé, et je pense que c'est quand même la clé aujourd'hui pour essayer de comprendre ce néopopulisme, particulièrement en Italie d'ailleurs, puisque Beppe Grillo et le mouvement 5 étoiles se sont énormément appuyés sur le web, avec la plateforme dite Rousseau, justement, en hommage à l'inspirateur de la démocratie directe, mais on peut aussi citer le cas d'Emmanuel Macron, qui a énormément utilisé Internet, et donc je crois que ça reste encore à creuser cet impact des réseaux sociaux et d'Internet dans ce nouveau régime politique dans lequel nous sommes.
Ilvo Diamanti, Marc Lazare, Peuplocratie, la métamorphose de nos démocraties, c'est aux éditions Gallimard.
France Culture, avis critique,
Raphaël Bourbois.
Tobacco Road.
Yeah.
Deuxième temps de l'émission, je vous propose maintenant de nous intéresser au phénomène éditorial du moment, le livre de Juan Branco, Crépuscule, publié au Diable Vauvert, Masson Édition. C'est l'essai le plus vendu du moment, on parle aujourd'hui de plus de 70 000 exemplaires publiés, en tout cas, il caracole depuis sa sortie en tête des classements. L'ouvrage a pourtant une histoire singulière, d'abord publié sur le blog de son auteur, en accès libre, il aurait, selon ce dernier, eu du mal à trouver une maison d'édition. Il a fallu attendre le succès en librairie pour le voir apparaître sur les radars de la presse qui se passionne et s'affronte depuis à son sujet. Je conseille aux auditeurs l'émission que lui a consacrée Marthe Weissmann sur France Culture, Signe des temps, avec notamment le journaliste Denis Robert qui en signe la préface. S'il y a tant de passion autour du livre, c'est d'abord pour sa forme, celle d'un réquisitoire politique contre Emmanuel Macron et plus largement une minorité d'oligarques qui l'a porté au pouvoir d'une bande, ce sont les mots de Juan Branco, qui s'est ensuite distribué les prébendes, un scandale démocratique majeur dont l'auteur entend dénoncer les ficelles par cette enquête. Le ton est vif, le style à la fois précieux et pamphlétaire, mais en fait, d'enquête, on découvre plutôt au fil des pages une synthèse des faits et de relations connues. Alors à quoi tient ce succès? Juan Branco, qu'on présente volontiers comme l'avocat des Gilets jaunes, dit en substance que la mobilisation qui dure depuis des mois vient de la conscience diffuse de ce système de confiscation du pouvoir qu'il entend révéler en tant qu'insider, car il est passé par les meilleures écoles, l'alsacienne, à Paris, Sciences Po, Normale Sup, Yale aux États-Unis, qu'il a été conseiller parlementaire d'Aurélie Filippetti, avocat de Jean-Luc Mélenchon et de Julian Assange. Voilà pour le portrait. Joseph Confavreux, parlant du succès, si vous voulez bien, pour commencer, ce qui vous semble à la hauteur des révélations du livre?
Non, ça certainement pas. C'est-à-dire qu'au moins, ce livre aurait pas dû s'appeler L'Enquête Vérité, mais Pamphlet contre Macron, mais il se serait sans doute moins vendu parce qu'il aurait pas pu jouer sur la corde de « Je vous révèle ce qui vous est caché », qui en réalité ne vous est pas tout à fait caché. Moi, j'avais signé un article dans Mediapart que j'avais intitulé « Crépuscule, Juan Branco découvre la Lune ». Parce que la plupart des choses qu'il dit sont déjà sues par ceux qui lisent les journaux. Après, moi, je suis pas contre refaire une synthèse, hein, de effectivement des dérives oligarchiques de notre démocratie, mais pas à la manière dont le fait Branco, c'est-à-dire de manière à la fois médiocre et surtout problématique. Après, il faut quand même peut-être dire d'emblée que faire la critique de Branco, c'est compliqué. Pour au moins trois raisons. On peut tout de suite avoir l'air jaloux, hein, parce que à moins de 30 ans, il a un CV que sans doute nous trois réunis autour de cette table et qui ne sommes pas complètement croulants, on n'aura jamais. Parce que il a organisé l'absence de critique en parlant par avance de tous ceux qui allaient censurer son texte, et il faut dire qu'il a pas trouvé d'éditeur parce qu'il a envoyé son texte à tous les éditeurs de la place de Paris et que tous l'ont refusé quasiment, y compris des maisons d'édition complètement indépendantes, hein. Ça, il faut quand même rappeler ça, et que en aval, il fait déverser des armées de trolls parce qu'il a des fans et des trolls. Donc là, après cette émission, les serveurs de France Twitter Culture vont être saturés. Ouais. Moi, la troisième raison qui me gêne le plus, c'est que moi, je considère aussi que les Gilets jaunes sont sans doute l'événement politique le plus important de ces dernières années, qu'ils disent quelque chose de vraiment de la situation démocratique très très grave dans laquelle on est, de la confiscation oligarchique, de la concentration médiatique, et que donc j'aurais bien aimé, de la part de quelqu'un qui a des billes, parce que effectivement c'est un insider, qu'il nous démontre un peu plus fermement et de manière moins mégalomane et égocentrique ce qu'on pouvait en faire. Mais les ennemis de mes ennemis sont pas mes amis forcément, et je ferai pas la révolution avec Juan Branco.
Alors juste pour ajouter à ce que vous avez dit, Joseph Confavreux, sur la difficulté à porter la critique, vous avez oublié un élément important, c'est que Juan Branco critique très très vertement le système médiatique, dont Mediapart, dont vous êtes journaliste, qu'il accuse du fait de la participation au lancement de Mediapart de Xavier Niel, qui est un des personnages centraux du livre, de ne pas avoir mené la bataille contre Emmanuel Macron. Vous aurez sans doute l'occasion d'y revenir. Évidemment, France Culture est épinglée aussi comme une radio fasciste ou fascisante, je ne sais plus quel est le terme.
Fascisante,
ce qui est quand même un peu plus gentil.
Et conservatrice.
Et que le Figaro est mystérieusement tout à fait épargné.
Oui, mais il est possédé par un industriel.
Oui,
donc,
Serge Dassault, voilà, ça paraît évident. Qui n'est pas un des éléments centraux. Donc voilà pour terminer, sans ironie aucune, hein, parce que c'est vrai que cette critique des médias, la concentration des médias, elle a déjà été portée et elle est tout à fait légitime. La question, c'est pourquoi est-ce qu'elle apparaît comme nouvelle sous la plume de Juan Branco pour que que plus de 70 000 personnes voilà, trouvent l'opportunité d'aller acheter son livre.
Non, Eugénie mais je Bastien. Trouve que Juan Branco organise l'infalsifiabilité de sa propre thèse. Vous savez, Karl Popper avait très bien expliqué qu'une thèse ne peut pas être scientifique si on organise, on ne peut pas la contester. Et en fait, on ne peut pas contester Juan Branco parce que si on conteste Juan Branco, c'est qu'on est corrompu et qu'on est acheté, vendu à Macron. Alors voilà, moi je tiens à dire que je ne suis pas d'accord avec Juan Branco, mais que je n'ai jamais, contrairement à lui, déjeuné avec Xavier Niel et que je ne connais pas personnellement Bernard Arnault et qu'on a le droit de critiquer son livre sans être forcément acheté, vendu, corrompu, etc. Je m'étonne d'ailleurs que l'on discute de ce livre dans cette émission d'ailleurs parce que c'est une émission d'idées et que je trouve que dans ce livre il n'y a pas une seule idée. C'est pas un essai, c'est un pamphlet c'est un organigramme de la Macronie, mais justement il n'y a pas d'idée puisque l'idée centrale du livre c'est de dire la Macronie est une mafia qui a pris le pouvoir, mais finalement ces gens-là n'agissent que par intérêt. Ils veulent s'en mettre plein les fouilles, hein, pour reprendre son expression, et ils n'agissent pas parce qu'ils ont des idées. Ils agissent parce qu'ils sont liés les uns aux autres. Or, je crois que c'est faux. Je crois que c'est sous-estimer justement l'idéologie qui est derrière le macronisme, et qu'on a d'ailleurs discuté ici à travers d'autres essais qui étaient, à mon avis, plus intéressants, comme par exemple l'essai d'Harold Bernat, Le néant et le politique, ou celui de Barbara Stiegler sur Il faut s'adapter, qui montre finalement le néolibéralisme et ses fondements qu'il y a derrière ce macronisme. Et je pense que si Emmanuel Macron, par exemple, supprime l'ISF, ce n'est pas parce que il veut rendre service à Bernard Arnault, c'est parce qu'il pense, il est convaincu que supprimer l'ISF va améliorer l'économie, qu'on taxe trop les riches en France, que le capital n'est pas assez libéré. Il pense que ça va, il va y avoir la théorie du ruissellement, etc. Mais il ne fait pas ça parce que son copain Bernard Arnault l'a demandé. Dans ce cas-là, c'était dans le programme de François Fillon. Est-ce que François Fillon était meilleur ami de Bernard Arnault aussi? Je ne sais pas. Mais c'est-à-dire que penser que les gens agissent juste pour l'intérêt personnel et qu'il n'y a pas d'idée derrière une idéologie ou finalement une vision du monde, c'est extrêmement réducteur et on ne va pas très très loin par là.
Joseph Confavre, juste pour être un peu complet sur cette enquête, et Juan Branco le dit lui-même, hein, il dit que il a beaucoup emprunté au livre de Marc Andevel, de L'ambigu Monsieur Macron, qui était publié chez Flammarion, ou au livre de Jean-Michel de Cugis, Marc Le Plongeon et Pauline Guénat sur Mimi, Mimi Le Marchand, qui est une communicante et qui avait été publiée chez Grasset. Voilà deux livres qu'il articule à une expérience personnelle, celle de son éducation dans une école de l'élite parisienne qu'est l'Alsacienne. Voilà, qui est un collège-lycée très prestigieux de la rive gauche parisienne et où il rencontre un certain nombre de personnes, dont un secrétaire d'État actuel qui va évidemment en prendre pour son grade, pour, si vous me passez l'expression, et qui est Attal et qui occupe le centre du livre.
Oui, c'est-à-dire que il gâche, en fait, la position qu'il aurait pu avoir. Parce que c'est un transfuge, Juan Branco. C'est-à-dire qu'il fait partie vraiment du monde de l'élite la plus extrême. Et il s'est retourné contre elle. Mais donc, il pourrait nous donner des vraies informations, pas seulement ce qu'il va chercher ailleurs. Et les très rares fois où il donne à sentir, qu'est-ce que c'est? Parce qu'évidemment, on sait que structurellement, il y a des liens très forts depuis l'école entre l'élite politique et l'élite économique. On sait qu'il y a une reproduction sociale. Mais au lieu de justement réfléchir aux mécanismes structurels, il met tout sur des points de vue individuels. Après, c'est vrai qu'il y a des fois des effets. Quand il dit que dans sa promotion, il y avait donc non seulement le secrétaire d'État à la jeunesse, mais la petite fille de Valéry Giscard d'Estaing, sa et fille du PDG du Club Med, celle du PDG d'Arcos, la fratrie issue des producteurs de cinéma Godot, les lointains héritiers du général de Haute-Cloque, les grandes lignées des deux Galard, des Lantivier, des Lastroux, on touche du doigt ce qu'on sait par ailleurs, parce qu'il y a eu des études de sociologie.
Si vous êtes élevé dans le 6e arrondissement de Paris, vous avez de fortes chances d'être à l'école avec d'autres personnes qui sont du même milieu social que vous. Oui.
Voilà. Mais donc, moi je pense que ce qui est un peu dommage, parce que faut voir que quand même, hein, Juan Branco, quand il avait 20 ans et qu'il l'argumentait contre Adopi, c'est vraiment quelqu'un qui est de très malin. Mais sa mégalomanie profonde et son aveuglement sur tout ce qui n'est pas lui fait que ça se transforme en réquisitoire, mais dans ce cas le réquisitoire politique, ça peut être quelque chose d'intéressant. Mais là, d'ailleurs, il a fait une vidéo complètement délirante là pour le 1er mai dernier, où il se rêve en procureur révolutionnaire. Il explique qu'il a fait des listes. C'est Fouquier-Tinville qui était le procureur de l'intérieur, qui d'ailleurs, assez intéressant, venait aussi de la haute aristocratie, et il faut le dire à Juan Branco, a fini aussi guillotiné.
Comme ça juste.
C'est-à-dire que on est là dans un registre qui est
C'est simple, ça s'appelle tout simplement la fièvre du converti, c'est-à-dire que
c'est le
transfuge de classe qui a découvert la révolution et qui s'y rue avec des mesures. Et c'est vrai qu'il faut quand même souligner l'extraordinaire mégalomanie du personnage qui quand même met en scène sans arrêt sa propre moralité en disant oui, alors j'étais invité avec par Xavier Niel au Ritz, mais j'ai essayé de prendre l'addition en vain. Il nous explique voilà que lui, il a cédé à toutes les pressions, qu'on a essayé de le corrompre plusieurs fois, mais que il s'en est toujours sorti par sa probité morale. Il met en scène un personnage complètement délirant. Et c'est vrai que sur l'école alsacienne, c'est intéressant parce qu'on dirait du Bourdieu à la sauce Gossip Girl, c'est-à-dire que on nous décrit un phénomène.
Une série américaine qui voilà. Se passe à New York.
Une série américaine. Il y a un personnage de cette série qui est un jeune qui est forcé d'être dans une école de riches, mais qui déteste tous les riches qui l'entourent. Et on dirait vraiment ce personnage Juan Branco, c'est-à-dire qu'il décrit oui, en effet, Gabriel Attal était ami avec la petite fille de Valérie Giscard d'Estaing. Il nous décrit les liens avec du name dropping permanent, mais ce n'est véritablement pas très intéressant. Il faut dire aussi que les 40 pages sur Gabriel Attal sont par certains endroits honteuses, notamment quand il s'attaque au père de Gabriel Attal, qui est décédé, donc il ne peut pas se défendre, et qui, où il l'accuse de lui-même d'avoir été mêlé à des turpitudes financières, et on se demande ce que ça vient faire là, c'est-à-dire qu'il veut attaquer un secrétaire d'État en attaquant son père pour des faits qui sont d'ailleurs extrêmement anciens. D'un homme d'ailleurs qui est décédé. Enfin, je trouve ça vraiment d'une bassesse sans nom, sans compter évidemment le double outing qu'il fait dans ce livre, outing de Gabriel Attal et outing de Richard Descoings, qui lui aussi est décédé, qui sont aussi des méthodes, je trouve, peu honnêtes et qui aussi traduisent, je pense, parce que s'il faut chercher des idées, un refus de ce qui fait la force de nos démocraties, qui est aussi la distinction entre privé et public. Alors lui, il la balaye d'un revers de bras en disant, bah, là, il est vraiment dans la philosophie d'Assange et de tous ces lanceurs d'alerte de la transparence qui disent finalement, il n'y a plus de distinction entre privé et public, et faire cette distinction-là, c'est une distinction bourgeoise qui sert l'oligarchie. Mais moi, je suis désolée, je tiens encore à la distinction entre privé et public, et je n'ai pas envie qu'on me révèle les turpitudes d'adolescente de Gabriel Attal. Gabriel Attal, ça, je ne vois pas quel intérêt ça a pour la démocratie.
Alors, peut-être d'accord sur les turpitudes de Gabriel Attal, et en même temps, Joseph Coufavreux, vous avez rappelé l'article que vous avez signé pour Mediapart. Je suis allé regarder un petit peu les commentaires qui étaient en dessous, et beaucoup des commentaires, et qui sont probablement des lecteurs de Juan Branco, c'est de dire peut-être que vous, journaliste parisien, vous étiez au courant, mais moi, je n'étais pas au courant. Et cette marmite, ce couvercle de la marmite qui a été soulevé par quelqu'un de l'intérieur, c'est utile, c'est faire œuvre utile, et ça montre évidemment tout un tas, encore une fois, de compromissions, de réseaux, de façons dont fonctionne la démocratie en France, qui par ailleurs sont dénoncées dans d'autres livres. Je pense au livre de Julia Cagé, par exemple, sur l'élection, le rôle de l'argent dans la politique en France, ou même un autre livre de Julia Cagé, l'économiste, sur la concentration des médias. Donc, il y a bien une façon d'accepter cette critique de la part d'autres chercheurs, penseurs, même si Juan Branco n'est pas un chercheur, qu'on n'accepte pas de la part de Juan Branco. Pourquoi ?
Moi, c'est la vraie question. C'est est-ce que ce livre peut être utile au-delà de son auteur ? Parce que qui lui est, je pense, absolument indéfendable. Et je partage pas parce que je pense que la distinction elle est pas entre privé public simplement, elle est entre intérêt public, c'est-à-dire que donner des noms, ça peut avoir un intérêt public quand les gens commettent des fautes, quand les gens commettent des choses illégales, quand il y a des vraies collusions, on peut donner des noms, on doit donner des noms. Ça fait partie aussi de la fonction journalistique. Donc voilà. Mais moi, je pense que ce livre n'est pas utile parce qu'au fond, il mélange trop Gala et le Comité Invisible. Elle disait que c'est un mix de Voici et de Marx.
Le magazine Elle. Ouais.
Le magazine Elle. Mais en fait, pour moi, il est problématique pour deux raisons principales. Une, qui est que si on se place d'un point de vue contre l'oligarchie, il faut penser un peu autrement le monde social et penser les structures, c'est-à-dire que l'idée d'un peuple pur à 99% et d'élite corrompue à 1%, eh ben je pense pas que c'est comme ça qu'on fait une révolution. Juan Branco pense est sûrement d'accord avec la phrase de Mao selon laquelle la révolution n'est pas un dîner de gala et que c'est un mouvement violent, mais il est pas interdit non plus de s'interroger dans ce cas-là à la fois sur ce que sont devenus par exemple la révolution maoïste et de s'interroger sur qu'est-ce qu'il y a d'intérêt commun entre un précaire du privé et un petit patron qui sont dans les 99%. Donc je pense qu'il comprend rien ni au marxisme ni à Bourdieu. Et le deuxième plan, parce que je pense que ça c'est important, c'est la manière dont il utilise quand même les termes de l'extrême droite des années 30. Il nous parle d'une république qui sombre entre des mains prostituées, il évoque la saleté des élites. Il décrit justement la petite fille du sociologue Alain Touraine en proie au désordre nourri dans les lignées issues de liaisons entre femmes et hommes de pouvoir. Il décrit un pouvoir déviant, les mœurs irrégulières des gens les plus fortunés de notre pays. On peut pas faire ça quand l'extrême droite des années 30 a parlé de Léon Blum mangeant dans de la vaisselle en or, ou quand la gauche prolétarienne des années 70 décrivait le fameux notaire de Bruyères-en-Artois qui était accusé à tort d'avoir violé une petite fille de mineur comme mangeant quotidiennement un kilo de viande. Il faut savoir distinguer une critique sociale, une critique politique, d'une critique crépusculaire qui en, embauche un air du temps très confus, très décadent et qui, à mon avis, explique en partie le succès du livre davantage que ce qu'il ne révèle pas.
Toute violence est l'expression d'une défaillance politique, c'est-à-dire de la gestion de la conflictualité. C'est l'une des affirmations de Juan Branco qu'on peut trouver dans son livre Crépuscule, publié donc au Diable Vauvert, Masson Édition.
Oui, il y a une justification évidente de la violence. D'ailleurs, lui-même a dit, lorsqu'il a vu le transpalette défoncer la porte du secrétaire d'État Benjamin Griveaux, il a dit que c'était jouissif. Donc on voit qu'il y a quand même cette espèce de jouissance pour la violence qui est très juvénile, qui est celle du radical chic, qui s'ébobie devant la virilité du peuple. C'est un peu ridicule. Et je trouve qu'il y a aussi un problème dans ce livre, c'est finalement, on en parlait au niveau pour la peuplocratie, mais c'est la vision assez simpliste, en fait, monocausale de tous les de la politique. C'est-à-dire que, par exemple, prenons un exemple, il dit par exemple que la preuve de la connivence de Macron et des grands patrons, c'est que le fait que les grandes entreprises aient accepté de verser la prime exceptionnelle Macron pendant la crise des Gilets jaunes, et que donc Emmanuel Macron a dit, il a appelé les grandes entreprises à verser cette prime et elles ont immédiatement obéi. On peut aussi penser que les grandes entreprises ont fait ça parce qu'elles étaient soulagées justement que les Gilets jaunes ne s'attaquent pas directement à elles. Il y a plein de raisons de penser pourquoi ces entreprises ont versé cette crise, mais c'est dire que c'est parce qu'il y a une amitié entre Emmanuel Macron et les grands patrons qu'il lui aurait obéi. Et puis surtout, on a envie de dire pendant les mais qu'est-ce qu'ils ont obtenu, ces grands patrons? Certes, ils ont obtenu la fin de l'ISF, mais c'était dans le programme de François Fillon également, mais et de plein d'hommes politiques de droite, etc. La fin de l'ISF est au programme d'énormes partis depuis des années, mais est-ce qu'il y a eu des faveurs particulières qui ont été octroyées par Emmanuel Macron à ses amis grands patrons? Ça reste à démontrer.
Ah bah, par exemple, puisqu'on parlait de Xavier Niel, il y a tout un passage sur l'attribution de la licence d'exploitation pour le mobile pour Free, qui est mise en avant par Juan Branco comme l'un des exemples justement de cette collusion entre Emmanuel Macron, alors ministre de l'économie si je ne me trompe pas, et Xavier Niel, le patron de Free.
Bah, le problème, il y a deux problèmes. Moi, je partage pas ce que je pense qu'effectivement il y a un côté romantisme juvénile sur la violence, mais la violence d'un transpalette défonçant la porte d'un ministère ne sera jamais aussi violente que certains types de licenciements boursiers, et la violence d'une Porsche qui ne brûle ne sera jamais aussi violente que une famille qui a pas de quoi acheter des petites voitures à ses enfants. Donc la violence, ça veut rien dire. Donc moi, je suis pas contre certains propos de Branco sur des violences contre les choses. Je veux dire, il y a beaucoup plus grave dans le système tel qu'il est. Mais c'est ça le problème, c'est que là, en fait, il verse dans le complotisme et que, en fait, il y a effectivement des collusions et des complots. Ça arrive, c'est vrai. C'est-à-dire que il y a, ça existe. Donc, mais le problème, c'est qu'il ne fait que flatter ça et qu'il explique. Et là, je suis d'accord, de manière totalement monocausale, tout s'expliquerait parce qu'il aurait été décidé dans tel ou tel hôtel particulier. Mais du coup, il nous bloque complètement. D'ailleurs, il désamorce le truc lui-même en disant ah voilà, les journalistes vont tout de suite m'accuser de complotisme. Donc, ce qui est très compliqué, c'est comment faire comprendre, et moi je l'ai vu dans les commentaires effectivement à l'article critique que j'avais écrit sur l'article de Branco, comment il y avait plein de gens qui disaient mais on comprend pas, puisque Mediapart vous critiquez aussi Macron, et là vous critiquez Branco, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est parce qu'en fait vous cachez des choses? Non, on ne cache rien, c'est-à-dire que tout n'est pas caché, mais il y a des choses à révéler, mais quand on les révèle, il faut savoir avec qui on les révèle, comment on les révèle, et sur quel fondement on les révèle.
Avec cette idée que les révélations que peuvent faire la presse ne sont jamais complètes et donc forcément sujet à la suspicion, à la conspiration. Évidemment, on reconnaît, Juan Branco reconnaît le rôle, par exemple, d'enquête de Mediapart sur un certain nombre de sujets, mais comme tout n'est pas dit, ou alors sur l'ascension d'Emmanuel Macron, dont il dit que les réseaux d'influence n'ont été révélés qu'après son élection, malgré la présence évidente dans un certain nombre de journaux, de révélations, des journaux aussi subversifs que les Échos qui avaient analysé les relations, par exemple, avec Armand, avec un certain certain nombre de patrons d'Emmanuel Macron. Comme c'est jamais complet, et ben c'est forcément qu'il y a des choses qui sont cachées.
Oui, c'est ça. Et je pense que le succès du livre repose énormément sur cette charge contre les médias, qui est quand même un des fils conducteurs, hein, parce que on sent que voilà, c'est à la fois une charge contre Macron et une charge contre le système médiatique qui aurait poussé de toutes pièces Macron au pouvoir. Et c'est-à-dire que en fait voilà, tout est une preuve pour lui de cette connivence, y compris même la révélation de l'affaire Benalla dans Le Monde, parce que du coup ça rentre pas dans la case de son système, puisque Le Monde normalement est affidé à Macron par Xavier Niel, mais ils ont révélé l'affaire Benalla. Alors là il dit bah en fait ils ont révélé l'affaire Benalla parce qu'ils devaient lâcher un peu de lest comme une soupape pour que le système se maintienne. Donc là on arrive à des degrés de justification qui me semble complètement délirant. C'est-à-dire que la révélation de l'affaire Benalla par Le Monde est la preuve que Le Monde est finalement affidé à Macron et qu'ils veulent essayer de sauver le système en lâchant un petit peu. Donc là, on va dans le jeu. Et moi-même, qui m'oppose bien souvent à Mediapart sur plein de sujets, dire que Mediapart est soumis au macronisme, c'est que ça me paraît quand même un petit peu fort. Et je crois que il participe de l'affaiblissement des contre-pouvoirs à Emmanuel Macron en jetant toute la presse dans le même sac.
Et on peut juste faire d'un mot, quand même, le truc, c'est que les ventes vont augmenter quand on voit avant-hier apparaître la vidéo de Carlos Ghosn faisant sa fête à Versailles là, pour 600 000 euros. Il y a un vrai problème de l'oligarchie en France. On peut pas dire le contraire quand on voit ça. Donc moi, ce que je crains, c'est que le livre de Branco soit la mauvaise cristallisation d'un problème bien réel.
Juan Branco, Crépuscule, préfacé par Denis Robert, c'est donc aux éditions du Diable Vauvert, Masso Édition.
L'instant critique.
L'instant critique, il nous reste très très peu de temps, donc je vous laisse juste présenter vos conseils de lecture à nos auditeurs. Joseph Confavreux.
Alors moi, je me suis dit qu'après ces deux essais, on aurait besoin d'un peu de magie, de poésie et de grands espaces. Je vous propose donc très brièvement d'aller voir un film en salle qui date de la fin des années 80, qui vient de ressortir. Ça s'intitule « Quand nous étions sorcières ». C'était le premier long-métrage de la réalisatrice américaine Nitschka Keen, morte à 52 ans en 2004. Et c'est un film tourné en noir et blanc, donc en Islande, avec Björk dans son premier rôle, qui adapte un conte peu connu et cruel des frères Grimm, le conte du Genévrier.
Voilà. Et moi, je vous parle du dernier numéro de la revue Esprit, qui est consacré à l'idéologie de la Silicon Valley, avec deux articles notables, je trouve, l'égalitarisme automatisé d'Emmanuel Aloha, qui explore finalement la théorie politique derrière l'idéologie de la Silicon Valley, notamment comment le médium influence le contenu, et un autre article très intéressant de Jean-Pierre Dupuis sur la nouvelle science des données et comment finalement le big data est en train de changer notre vision de la science, puisqu'on abandonne la théorie de la causalité au profit de celle de la corrélation, et ça change notre manière d'envisager la science. C'est vraiment passionnant et ça permet de comprendre ce qui se cache derrière les nouvelles technologies.
Oui, je vous ai un peu pressé, mais en fait, il nous reste un petit peu de temps. Joseph Confavreux, vous avez été trop rapide
parce que c'est un très beau film, donc c'est en noir et blanc. Ça se passe au Moyen-Âge. Il y a deux sœurs qui fuient la société des hommes après que leur mère a été brûlée comme sorcière. Et Katla, la sœur aînée, séduit
les sorcières qui, définitivement, ont vraiment le vent en poupe. Hein, parce que Mona Chollet, son livre sur les sorcières, c'est le vrai succès.
C'est le succès de librairie plus intéressant que du Juan Branco. Et donc, il y a une sœur aînée qui obtient d'un fermier veuve de s'installer chez lui, et tandis que Margit, qui est la sœur cadette jouée par Björk, c'est son premier rôle au cinéma, et c'est avant donc que Lars von Trier ne l'ait dégoûté définitivement du cinéma, et quand on la voit, elle est absolument hallucinante, on regrette vraiment qu'elle ait arrêté le cinéma.
Merci beaucoup Joseph Confavreux, merci Eugénie Bastier. Je rappelle les livres dont il était question ce soir, donc Juan Branco, Crépuscule, Au Diable Vauvert, Masso Édition, et Ilvo Diamanti, Marc Lazare, Peuplocratie, La métamorphose de nos démocraties, c'est chez Gallimard. Avis critique, c'est terminé. Attaché d'émission, Catherine Donnet. À la réalisation aujourd'hui, c'était Vanessa Nadjar. Et à la prise de son, Jean-Michel Bernot. Vous pouvez évidemment réécouter cette émission, la télécharger, vous abonner au podcast. Il faut s'abonner au podcast d'Avis critique sur notre site franceculture.fr. Dans quelques instants, Jukebox. Thank you.